Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous. On a une pensée ce matin pour les voyageurs qui ont passé la nuit dans deux trains de la ligne Paris-Toulouse, bloqués à cause des orages qui ont provoqué la chute d'un arbre et qui coupent toujours la circulation ce matin dans le Lot jusqu'à 6 heures de retard là au moment où on se parle. Nous serons dans le Tarn dans ce journal où les recherches reprennent au lendemain de la découverte d'ossements dans un champ, vous savez, où Cédric Jubilard a dit avoir enterré sa femme. Et nous serons aussi à La Baule, la cité balnéaire de Loire-Atlantique où des CRS arrivent au renfort ce matin face aux incivilités constatées pendant les vacances.
La nuit a donc encore été chaotique pour des centaines de voyageurs.
Alors cette fois, c'est pas à cause de la chaleur, c'est à cause des orages qui ont fait tomber un arbre sur la voie ferrée dans le Lot, donc entre les villes de Gourdon et de Souillac précisément. C'est la ligne Paris-Toulouse qui est une des plus problématiques de France d'ailleurs. Les trains ne peuvent plus passer concrètement ce matin. Il y a deux intercités de nuit qui sont bloqués avec jusqu'à 6 heures de retard. Je vous propose d'écouter ce passager qui était dans un train parti hier soir de Toulouse, censé arriver vers 7 heures ce matin à Paris. On lui a passé un coup de fil là tôt ce matin. Il nous raconte l'enfer de son voyage.
De minuit jusqu'à 6 heures du matin, il ne s'est rien passé. Aucune annonce, le train était éteint et on est resté comme ça à se demander ce qui nous arrivait. Il faisait chaud, pas de climatisation. Le chef de train de la SNCF, le contrôleur, a ouvert toutes les fenêtres de toutes les voitures de train. Les passagers de première classe ont eu des boîtes repas, les autres non. Et voilà, on est actuellement dans un train de secours, entre guillemets, arrêté en pleine voie. J'ai pris un train de nuit parce que je dois travailler à Paris ce matin. On va probablement arriver à Paris vers 16 heures. Quel moyen peut sauver ma journée ?
Et la SNCF qu'on a eu au téléphone là il y a quelques minutes seulement nous dit que la reprise du trafic est espérée, seulement espérée pour la fin de matinée. Alors dans la soirée, c'est dans la Loire, à l'autre bout de la France, qu'une tornade a couché deux camions sur l'autoroute A72 au nord de Saint-Étienne. Il y a 53 000 foyers qui se réveillent sans électricité ce matin en Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine, les régions principalement touchées par ces orages. Plus de 140 000 impacts de foudre recensés hier partout en France. La canicule aussi qui est toujours en cours, vous savez, dans le sud-est avec 10 départements en alerte orange, eh bien elle est à l'origine d'une panne de courant à Marseille, c'était hier jusque dans la soirée, qui a provoqué les fermetures des tunnels passant sous le Vieux-Port d'après Enedis.
Il est 8h02 sur RMC, les recherches reprennent dans le Tarn.
Au lendemain de la découverte d'ossements dans un champ, à l'endroit où Cédric Jubilard, récemment passé aux aveux, dit avoir enterré le corps de son épouse après l'avoir tué il y a bientôt 6 ans. Pierre Bazin, vous êtes pour RMC en direct ce matin à Mayoc, c'est là que la découverte a été faite hier et là que les recherches reprennent ce matin.
Oui, ce matin, il y a encore près de 100 gendarmes qui sont mobilisés sur la zone. On a vu arriver notamment plusieurs fourgons, banaliser des équipes scientifiques, des médecins légistes déployés. 7 experts de l'IRCG, l'Institut de Recherche de la Gendarmerie Nationale, sont toujours présents dans cette zone perdue au milieu de champs et de petits espaces boisés. C'est là que Cédric Jubilard a conduit les enquêteurs après son audition, au cours de laquelle il a réitéré des aveux et fourni des éléments d'explication sur le soir du drame. D'après ses avocats, on a également vu arriver entre hier et aujourd'hui une grue mobile située en plein milieu de la zone de recherche et on entend d'ici, même si nous sommes tenus à bonne distance, que les gendarmes s'activent au milieu de cet espace. Tout doit être ratissé au peigne fin pour être sûr de ne laisser aucun élément utile à l'enquête. L'enjeu à présent, il est double. Analyser dans un premier temps les ossements qui ont été conduits dans les laboratoires de Pontoise en Île-de-France dès hier pour savoir s'ils correspondent au corps de Delphine Jubilard. Et puis le second enjeu, si cela se confirme, c'est de retrouver le plus d'éléments possible pour reconstituer le squelette et essayer de déterminer quelles sont les causes de la mort. Il faut pour cela retrouver par exemple des traces de choc ou de fractures sur les os. Mais il est aussi possible que l'autopsie ne permettent pas d'apporter tous les éléments de réponse.
Autre affaire, on reparle là ce matin des conséquences de l'affaire Liana, puisqu'un deuxième rapport d'inspection pointe, et je cite ce rapport, les délais manifestement excessifs et un manque de moyens dans l'enquête sur de précédentes accusations visant le mis en cause Jérôme Barella. Amine Lafcha, en direct ce matin pour RMC. On parle là de la jeune Rosa qui dit avoir été violée une cinquantaine de fois par Jérôme Barella.
Oui, dans ce rapport, l'inspection générale de la justice évoque un examen psychologique de la fillette mené par un psychologue non inscrit sur la liste des experts, puis un interrogatoire qui s'apparente, je cite, à un examen de la crédibilité de l'enfant proscrit depuis l'affaire dite d'Outreau. Le dossier fragilisé n'est alors pas prioritaire et renvoyé de parquet en parquet et n'est saisi par un service d'enquête qu'au bout de 10 longs mois avant d'être classé sans suite sur un simple compte-rendu téléphonique. Les enquêteurs de ce rapport font aussi mention d'un signalement fait par l'aide sociale à l'enfance faisant état d'agression de la part de Jérôme Barella lors d'une soirée pyjama. Un signalement jamais parvenu au magistrat. Le mail étant considéré comme un spam par le logiciel de messagerie du parquet.
Alors c'est dans la foulée de cette affaire Liana que les magistrats ont réexaminé plus de 70 000 procédures. Ils en avaient la consigne sans quoi ils ne partaient pas en vacances. Et ce matin, la procureure de Lyon fait un constat édifiant. Elle dit ceci, je la cite, on savait qu'on sous-traitait les violences sexuelles sur mineurs.
Au point qu'elle l'affirme dans un entretien accordé à l'AFP, on sait que l'affaire Liana peut se reproduire. Selon la magistrate, le nombre d'enquêteurs formés à recueillir la parole des enfants est insuffisant. De même que le nombre d'experts dans les domaines psychologiques, psychiatriques et numériques. Un sujet qu'elle a abordé avec le garde des Sceaux. La procureure de Lyon dénonce des capacités limitées et un sous-traitement des violences sur mineurs, regrettant qu'au moment des dessaisissements, les dossiers transmis entre les parquets partent dans les tuyaux.
Ameline Achin pour RMC en direct ce matin. Et dans ce contexte, le gouvernement dévoile ses premières orientations pour le budget de l'année prochaine, le budget 2027. Il va beaucoup en être question là dans les prochains mois. Alors tous les ministères devront se serrer la ceinture, sauf la justice, l'intérieur, les armées et la transition écologique qui verront leur budget augmenter. Puisqu'on parle de sécurité, tiens, sachez que des CRS arrivent ce matin en renfort à La Baule, en Loire-Atlantique. C'est le cas tous les ans pour faire face aux incivilités que dénonce le maire dès les beaux jours, dès que les beaux jours arrivent dans cette cité balnéaire. Une rixe, par exemple, qui avait fait la une des journaux lors du week-end de la Pentecôte à La Baule. Mais où la venue de ces CRS divise les habitants, c'est ce que nous dit notre correspondant Martin Lange.
Christophe est gérant d'un restaurant de plage face à la mer entre les services, le bar, la caisse. Il doit aussi gérer le comportement de certains vacanciers.
Quelques incivilités, on fait un peu la police pour protéger un petit peu notre restaurant.
Il se réjouit donc de l'arrivée de cette compagnie de CRS.
Ah bah oui, c'est un renfort, puis c'est un peu leur métier parce que nous on est surtout là pour servir les gens, on n'est pas trop là pour les réprimander. Quand ils se montrent, c'est vrai que ça calme un peu tout le monde.
Sur le remblai face à la mer, la majorité des passants approuvent cette présence. Pierre vient en vacances à La Baule depuis plus de 40 ans.
Ils peuvent rassurer les gens et puis le fait de les voir va faire que ces jeunes vont peut-être se comporter différemment.
D'autres émettent des réserves à l'image de Félix pour qui des CRS n'ont rien à faire dans une station balnéaire.
Ça envenime plus la situation que ça l'apaise. Il y a déjà la police municipale qui sert de police de proximité. Je pense pas que déployer même des CRS ce soit vraiment nécessaire.
Mais pour le maire Franck Louvrier, ce renfort est vital.
Quand vous avez une ville qui est multipliée par 10 en nombre d'habitants, il est normal qu'on puisse avoir des forces en plus, sinon c'est pas possible. Les CRS, c'est pas que de l'ordre public. Les CRS, c'est aussi de la présence policière au quotidien.
Le maire espère également pouvoir bientôt investir dans des drones pour surveiller ces 8 km de plage.
Tiens, à propos des vacances, l'autoroute A6 est à nouveau ouverte à la circulation en Seine-et-Marne, dans le secteur de Fontainebleau. Elle était fermée depuis dimanche, vous savez, à cause de l'incendie dans la forêt. D'ailleurs, les opérations de noyage se poursuivent, nous disent les pompiers ce matin. Réouverture qui tombe pile pour un nouveau week-end de départ en vacances. La journée classée orange au niveau national et rouge dans la moitié est.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Alors les vacances, l'été, normalement on peut veiller, on peut se coucher plus tard, mais est-ce que vous aurez la foi de regarder la petite finale de la Coupe du Monde demain soir à 23h entre la France et l'Angleterre? Ben c'est pas sûr du tout si on en croit ces Parisiens, ces touristes et ces cafetiers ici à Paris avec David Alias.
Si le mondial n'est pas encore totalement terminé pour les Bleus, il l'est pour certains supporters qui n'allumeront pas leur télévision demain soir.
Trop tard, c'est à 23h. Bon, en plus, là, je suis en vacances sur Paris, on va pas regarder le match.
J'espère qu'ils vont faire un brustas, tout, on peut s'aider contre les Anglais. Et je pense que je vais moins suivre ce dernier match.
Pour d'autres, comme Roman et son frère Aubry, ce match sera l'occasion d'encourager une dernière fois les Bleus et leurs sélectionneurs.
Virgil et les mecs qui n'ont pas joué, qui étaient là sur tout le mondial, qui ont participé à l'aventure.
Une des seules raisons pour laquelle je vais suivre le match, c'est parce que c'est la dernière de Deschamps. Pour tout ce qu'il a fait pour notre sélection, ça serait beau que l'équipe gagne ce match pour lui rendre hommage.
Même si ce dernier aurait préféré ne pas affronter l'Angleterre.
T'as arrêté France-Argentine à 23h le samedi soir, même la petite finale, même la troisième place. Je pense que j'aurais été dans ma télé sacrément concentré et comme une grosse partie de la France, je pense.
Serveuse, Julia s'attend tout de même à accueillir de nombreux supporters des Bleus demain soir pour suivre la rencontre.
Oui, je pense qu'il y aura du monde parce que ça reste la France qui joue. C'est la dernière victoire qu'on espère avoir.
Comme ici, d'autres établissements diffuseront la petite finale avec l'espoir de voir Kylian Mbappé et sa bande finir sur une bonne note.
Les Bleus qui sont arrivés à Miami durant la nuit, ils ont définitivement quitté leur QG de Boston. Ils devaient avoir quartier libre dans la soirée, mais ça a été annulé. Didier Deschamps veut que tout le monde reste concentré pour la petite finale demain soir. On sait déjà que le défenseur William Saliba ne jouera pas demain et pour cause. Il souffre d'une fracture au dos depuis le début de la Coupe du Monde. C'est toi, RMC, qui vous a révélé cette info dès hier. Et tiens, puisqu'on parle de pépins physiques, sachez qu'il y a deux coureurs qui abandonnent là, le Tour de France, victimes de la très grosse chute hier à l'arrivée dans le sprint final à Chalon-sur-Saône. Ce sera la plus longue étape du Tour de France aujourd'hui. 206 km entre Dole et Belfort. On arrive dans les Vosges. Ça y est, la route s'élève à nouveau avec le ballon d'Alsace au programme à 30 km aujourd'hui de l'arrivée.
Il est 8h10. C'était le journal de Quentin Vinet sur RMC et RMC Story.